Et le journal est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. François Fillon est bien coupable de détournement de fonds publics, mais l'ancien Premier ministre aura droit à un nouveau procès pour fixer sa peine. Florence Thiom revient dans un instant sur l'arrêt de la Cour de cassation rendu aujourd'hui. Bruno Le Maire annonce 50 mesures pour simplifier la vie des entreprises. Le combat revendiqué contre la paperasse administrative est un grand classique de la vie politique française. L'analyse de Stéphane Robert dans un instant. Regain de tension entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne affirme avoir lancé une action offensive contre la milice pro-iranienne au sud Liban. Enfin, en Italie, le Parlement de droite autorise les groupes anti-IVG à intervenir dans les centres d'accueil des femmes qui veulent avorté, la gauche italienne dénonce une remise en cause du droit à l'avortement. François Fillon est définitivement coupable aux yeux de la justice française. La Cour de cassation a confirmé aujourd'hui la culpabilité de l'ancien Premier ministre dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Mais le feuilleton judiciaire n'est pas terminé pour autant, puisque la Cour a ordonné un nouveau procès pour fixer la peine et les dommages et intérêts. Le 9 mai 2022, François Fillon avait été condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Ce sont donc ces sanctions que la Cour d'appel de Paris va réexaminer, Florence Thiom.
La culpabilité de François Fillon est actée et définitivement actée. La Cour de cassation n'a pas retenu les arguments de l'ancien Premier ministre et de ses avocats. Selon eux, l'enquête visant l'ancien candidat à la présidentielle n'avait pas été menée de manière impartiale. Ils n'avaient pas pu utiliser cet argument au procès devant la Cour d'appel. Ils ont donc soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel leur a donné raison en septembre dernier et fait naître ainsi l'espoir d'un troisième procès. Il n'aura pas lieu sur le fond du dossier, vient de décider la Cour de cassation, qui demande en revanche à une autre cour d'appel de réexaminer la peine infligée à François Fillon. Peine allégée lors de son deuxième procès, mais qui restait une peine de prison ferme, un an en l'occurrence. Or, écrit la Cour, un juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La Cour de cassation estime que le juge n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ce point. Il faut le rappeler, la Cour se prononce sur l'application du droit et pas sur le quantum de la peine à retenir. Pénélope Fillon et Marc Joulot, l'assistant parlementaire de François Fillon, avaient quant à eux été condamnés à du sursis. Leur condamnation, tout comme leur culpabilité, sont désormais définitives. Mais la nouvelle cour d'appel devra également réexaminer les dommages et intérêts que les époux Fillon et Marc Joulot avaient été condamnés à verser à l'Assemblée nationale, en l'occurrence 800 000 euros.
Florence Thiom, merci. Les époux Fillon qui envisagent de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en tout cas ce qu'a affirmé sur l'antenne de France Info l'un de leurs avocats, Patrice Spinozzi. Certains diront que le Rassemblement national fait le ménage avant les élections européennes. Saïd Ali Bouana Amissi a finalement été retiré de la liste de Jordan Bardella. Le responsable local du RN à Mayotte paye ses écrits racistes, sexistes et complotistes sur Facebook. Ils avaient été révélés lundi dernier par Libération. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Une affaire bien embarrassante pour le Rassemblement national alors que la liste Bardella caracole en tête des intentions de vote.
Oui, il aura fallu attendre deux jours de silence au Rassemblement national depuis les révélations de Libération avant de retirer le plus discrètement possible Saïd Ali Bouana Amissi de la liste de Jordan Bardella. Au départ, l'idée semblait bonne, une place symbolique en position non éligible pour ce Mahorais, histoire de mobiliser un électorat qui a massivement voté Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Et puis il y a eu la révélation de ses propos tenus sur Facebook, qualifiant notamment, je cite, de vermine et de cafard les habitants comoriens d'un quartier de Mamoudzou. Ce matin, sur France Info, le vice-président du RN reconnaît ne pas, Sébastien Chenu, reconnaît ne pas être fan de ce genre d'expression, tout en ajoutant « Quand on met les gens à bout, il ne faut pas s'étonner qu'une expression soit un peu verte. » Au même moment, sur BFM TV, le député RN Jean-Philippe Tanguy va plus loin.
Nous ignorons tout à fait ces déclarations. Une enquête a été immédiatement diligentée et on m'a fait savoir qu'il ne serait sans doute plus sur la liste si ses propos étaient évidemment confirmés, qu'ils sont parfaitement contraires à la ligne de Marine Le Pen, au combat de Jordan Bardella, mais on nous avait évidemment caché ces éléments.
On nous avait caché ces éléments, dit Jean-Philippe Tanguy. Et pourtant, il suffisait de cliquer sur le profil Facebook de Saïd Ali Bouana Amissi pour prendre connaissance de ces éléments. Les propos mis en cause étaient en ligne de façon publique, pour certains depuis plusieurs années, ce qui laisse penser que le RN ne pousse pas l'investigation bien loin avant de promouvoir une personnalité symbolique.
Antoine Maretz, merci. Le Rassemblement national qui annonce la présence sur sa liste d'une magistrate, Pascale Pierra, était jusqu'en mars juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux en Seine-et-Marne. Elle est en disponibilité depuis le 1er avril. Le RN affirme que la juge va apporter, je cite, « son expertise juridique et son expérience face à l'insécurité ». Fin de citation. C'est le nouveau combat de Bruno Le Maire, la lutte contre la paperasse qui accable les entreprises françaises. Le ministre de l'Économie a présenté ce matin un plan de simplification de 50 mesures, avec à la clé notamment une fiche de paye simplifiée et la suppression de 1800 formulaires CERFA d'ici 2030. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui en France 400 000 normes applicables qui génèrent chaque année 253 millions de courriers entre les entreprises et les administrations. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Bruno Le Maire n'est pas le premier à s'attaquer à cette inflation des normes. La lutte contre la paperasse administrative est un grand classique de la vie politique française, à droite comme à gauche.
Oui, la France est l'un des tout premiers pays au monde en termes de production de normes et de règles en tout genre. Et tous les gouvernements essaient de s'y attaquer en vain depuis plus de 50 ans. L'une des scènes de la vie politique signalant ce mal français les plus célèbres date de 1966. Georges Pompidou est alors Premier ministre et il voit entrer dans son bureau à Matignon un jeune énarque de 34 ans, Jacques Chirac, qui porte sous le bras tout un tas de décrets à signer. Georges Pompidou s'emporte alors. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, dit-il à son jeune conseiller. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève, laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Nous sommes en 2024, 58 ans plus tard, et non seulement rien n'a changé, mais de nombreuses lois, règles et autres normes sont venues s'ajouter et nourrir le magma législatif et réglementaire français. Si on s'intéresse seulement à une période récente, depuis le début des années 2000, on s'aperçoit que le code du travail, le code des impôts ou encore le code de la construction et de l'habitat ont doublé de volume. Le code pénal, lui, a triplé au cours de la même période. Face à cela, chaque gouvernement, je vous le disais depuis Pompidou, se décide que ça suffit, cette fois c'en est trop, qu'il faut y mettre un terme. La mer est blanche de la paperasse doit être refoulée, décrète Giscard en 78. Mitterrand prend le relais en 81 et prétend éliminer ce qui n'est pas indispensable. Sous l'ère Chirac, Alain Juppé, Lionel Jospin, puis Jean-Pierre Raffarin décident tous les trois de s'attaquer au problème. François Hollande ira même jusqu'à créer un secrétariat d'État à la simplification, mais au bout du compte, tous font à chaque fois le même constat, on crée plus de normes qu'on en supprime. L'autre constat est que ce fardeau normatif coûte cher. Il était évalué à 60 milliards d'euros et 3% du PIB en 2010 par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce coût n'a pas été réactualisé depuis.
Stéphane Robert, merci. Le gouvernement confronté à la montée des revendications sociales avant les Jeux Olympiques de Paris cet été, le principal syndicat des contrôleurs aériens a levé son préavis de grève pour demain jeudi après avoir conclu un accord avec la Direction générale de l'aviation civile. Il y aura tout de même des perturbations demain, avec 75% des vols annulés à Orly et 55% à Roissy. Lundi, ce sont les principaux syndicats de la SNCF qui avaient obtenu un accord sur les fins de carrière des cheminots, un compromis qui éloigne la menace d'une nouvelle grève des contrôleurs au mois de mai. À l'approche des Jeux Olympiques, les organisations syndicales semblent donc en position de force pour faire avancer leurs revendications. C'est en tout cas l'analyse de Raymond Soubi, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à la tête du cabinet de conseil Alixio.
C'est un bon moment pour négocier parce qu'au fond, les personnels et les syndicats qui les représentent sont en position de force. Parce que si les services publics dont ils s'occupent venaient à ne plus fonctionner ou à mal fonctionner, eh bien, il y aurait des désordres considérables. Il y a toujours des désordres considérables, même hors période de Jeux Olympiques, et encore plus des dégâts considérables s'il y avait les Jeux Olympiques. Mais vous savez, c'est un grand classique. C'est un grand classique que dans les services publics qui sont des services publics et notamment de transport ou d'infrastructures de transport aérien, transport ferroviaire ou transport aérien, les personnels et les syndicats qui les représentent ont un grand pouvoir de nuisance dans certaines périodes de l'année ou dans certaines circonstances et donc ils en usent. je ne dirais pas qu'ils en abusent, mais ils en usent pour obtenir des contreparties par les organisations syndicales.
Mais ce qu'ils disent tous, Raymond Soubi, c'est que s'ils font ça aujourd'hui, c'est parce que en amont, les négociations n'ont pas eu lieu.
Oui, mais on dit toujours ça. On dit toujours ça. Lorsque vous avez une revendication et que vous êtes une organisation syndicale et que vous la soutenez, vous dites aussi que si vous la soutenez, c'est parce que vous n'avez pas eu satisfaction avant, comme dirait M. de la Palice. Donc c'est l'idée de faire passer en communication que la direction 1 est obtuse et 2 n'a jamais rien entendu. Et donc c'est sa faute, 1 parce qu'elle est obtuse, et 2 parce qu'elle est très lente à la réaction, c'est sa faute si le mouvement se produit et gêne les citoyens et les citoyennes.
Raymond Soubi, président du groupe Alixio, il répondait à Frédéric Carbone sur l'antenne de France Info. Lourdement endetté, le groupe Casino va supprimer entre 1300 et 3200 emplois, annonce faite ce matin par les nouveaux actionnaires du géant de la distribution, emmené par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Le chiffre précis dépendra du nombre de magasins et d'entrepôts qui pourront être repris d'ici septembre. Le tribunal de commerce d'Orléans vient de placer en redressement judiciaire la verrerie Duralex avec une période d'observation de 6 mois. Une nouvelle audience est fixée au 5 juin. Le tribunal espère trouver d'ici là un repreneur pour Duralex. S'agit-il d'un nouveau tournant au Proche-Orient alors qu'Israël menaçait ces derniers jours de lancer une offensive sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza? L'État hébreu annonce aujourd'hui une opération militaire au Liban, opération contre le Hezbollah pro-iranien qui bombarde régulièrement le nord du territoire israélien. On retrouve à Jérusalem notre correspondant Thibault Lefebvre, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thibault, l'armée israélienne parle d'une action offensive, alors de quoi s'agit-il exactement?
Eh bien, l'armée israélienne a annoncé tout à l'heure avoir frappé 40 cibles du Hezbollah au sud Liban, des entrepôts de stockage d'armes et des positions de la milice chiite touchées par l'aviation et des tirs d'artillerie. Ça se passe autour du village d'Aïta Ash-Shab, c'est à seulement quelques kilomètres de la frontière. En visite dans la région, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a déclaré dimanche que la moitié des commandants du Hezbollah avaient été tués depuis le 7 octobre et que l'autre moitié était en fuite ou se cachait. Dans les faits, le Hezbollah a perdu en effet beaucoup d'hommes, mais essentiellement des seconds couteaux. Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux belligérants se rendent coup pour coup. Un peu plus tôt dans la journée, des missiles anti-chars en provenance du sud Liban ont touché 2 maisons dans la ville israélienne d'Avivim. Hier soir, une quinzaine de roquettes ont visé une communauté agricole, là aussi sur le territoire de l'État hébreu. Et puis, il y a environ une demi-heure, des sirènes d'alerte ont résonné dans le nord, à proximité de la frontière.
Alors Thibault, ces zones sont vides, les populations sont parties au début de la guerre et l'intensification de ces frappes semble être une manière pour les autorités israéliennes de montrer qu'elles avancent.
Entre 60 et 100 000 civils ont quitté une zone frontalière d'environ 5 km de large juste après le 7 octobre. Une décision précipitée par la crainte à ce moment-là d'une offensive sur plusieurs fronts et d'une possible attaque au sol du Hezbollah sur le même mode opératoire que celle du Hamas. Ça fait aujourd'hui plus de 200 jours que la milice chiite envoie régulièrement des roquettes, des drones et des missiles anti-chars sur les villes, les villages et les bases militaires de la région. Impossible donc pour ses habitants de revenir. Ils vivent déplacés pour la plupart dans des hôtels et la colère monte. Alors depuis plusieurs semaines maintenant, le gouvernement promet d'agir pour leur permettre de rentrer chez eux. Le ministre de la Défense a assuré dimanche que le moment décisif était proche et il a assuré que plusieurs options étaient sur la table. Israël veut repousser le Hezbollah au-delà du fleuve Litani à environ 25 km de la frontière. C'est ce que prévoit notamment la résolution 1701 des Nations Unies. Que ce soit donc par la force ou par la négociation, le ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné sera samedi à Beyrouth pour essayer de trouver une issue pacifique à la crise.
Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem. Les États-Unis vont envoyer du matériel militaire à l'Ukraine dans les prochaines heures, annonce Joe Biden. Le président américain qui vient de promulguer la loi d'assistance militaire et économique votée par le Congrès après des mois de négociations politiques. Une gigantesque enveloppe de 61 milliards de dollars pour le pays qui fait face à l'invasion russe. Et c'est un soulagement pour beaucoup d'Ukrainiens, comme vous avez pu le constater dans la banlieue de Kiev, Agathe Mahué.
Ces habitants de Borodianka, Andrei et Olia, se réjouissent à l'idée de cette aide américaine.
C'est vraiment nécessaire. Pour nous, c'est une vraie question de survie. Sans cette aide, nous pourrions disparaître. Alors, cela nous donne un peu d'espoir. C'est vrai qu'on a perdu du temps ces 6 derniers mois, mais mieux vaut tard que jamais.
Le couple ajoute que cette aide n'assurera peut-être pas une victoire rapide, mais qu'elle permet au moins de tenir, à condition que l'Europe aussi continue de soutenir l'Ukraine. D'autres s'impatientent, comme Vera.
Il aurait fallu faire ça plus tôt. Il n'est pas trop tard, bien sûr, mais on aurait pu faire en sorte que la guerre finisse plus rapidement.
Et son mari, Serhiy, montre sur son portable la photo de ses deux fils, 30 et 35 ans, ensemble sur le front. C'est son fond d'écran. Vera ajoute que son époux s'est parfois agacé en regardant les infos.
Allez, envoyez cette aide plus vite.
Tous ne comprennent pas précisément à quoi serviront ces 61 milliards de dollars. Un jeune soldat s'inquiète auprès de nous. J'espère que les armes et les munitions arriveront bien jusqu'aux bataillons qui en ont besoin.
Agathe Mahuet, envoyée spéciale de France Culture en Ukraine. En Italie, le Parlement a adopté hier soir une loi qui renforce l'encadrement du droit à l'avortement. Concrètement, le texte change les conditions d'accueil pour les femmes qui souhaitent recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Les groupes pro-vie pourront désormais accéder aux centres de consultation. Selon cette nouvelle loi, ces groupes ont, je cite, une expérience qualifiée dans le soutien à la maternité. La première ministre de droite, Giorgia Meloni, avait pourtant juré à moult reprises qu'elle ne toucherait pas à la loi sur l'avortement. Bruno Duvic nous appelle de Rome.
La loi prévoit que des associations puissent intervenir auprès des femmes pour qui la maternité est problématique, mais décident de garder l'enfant. Intervenir après la naissance, donc. Avec ce vote, les associations pourront s'inviter dans les centres de consultation avant pour dissuader une femme d'avorter. Jusque-là, seuls des professionnels formés, diplômés, pouvaient intervenir à ce stade. À vrai dire, dans deux régions au moins, le Piémont et la Vénétie, déjà des groupes pro-vie sont présents dans les centres avant l'IVG. Le vote régularise et facilite cette pratique. C'est une grave attaque contre la liberté des femmes, commente le Parti démocrate. L'accès à l'avortement est un parcours du combattant en Italie. Les deux tiers des gynécologues font jouer leur clause de conscience, obligeant des femmes à se déplacer loin de chez elles. En 20 ans, on est passé de 230 000 à 64 000 IVG en Italie. Quelques jours après la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati sur la RAI, l'image d'une Mélanie plus modérée que prévu s'atténue nettement.
Bruno Duvic, correspondant à Rome, l'Italie de Giorgia Meloni. On en reparle dans le temps du débat avec Emmanuel Laurentin juste après ce journal. En Allemagne, le parti d'extrême droite AfD maintient sa confiance à l'un de ses eurodéputés éclaboussé par une affaire d'espionnage. Maximilian Krah reste candidat aux élections européennes et cela malgré l'arrestation de son collaborateur soupçonné de travailler pour les services secrets chinois. L'eurodéputé a rencontré ce matin les responsables de l'AFD qui ont donc refusé de l'écarter, Sébastien Baer.
La réunion avait été convoquée en urgence par le bureau fédéral de l'AFD pour entendre les explications de Maximilian Krah. Devant les deux dirigeants de l'extrême droite, l'eurodéputé a estimé n'avoir commis aucune faute et imputé la responsabilité à son assistant parlementaire. Maximilian Krah reste donc la tête de liste de l'AFD pour les élections européennes. Tout juste a-t-il accepté, pour ne pas nuire à l'image de son parti, de ne pas participer au lancement de la campagne européenne de l'AFD prévue le week-end prochain. Ces dernières heures, les pressions se faisaient de plus en plus fortes pour réclamer son retrait. Certains dénoncent les relations ambiguës de l'élu avec des représentants de la Chine et de la Russie, car le nom de Maximilian Krah est déjà apparu dans un autre scandale récent. Le député est accusé d'avoir reçu des pots de vin pour diffuser des positions pro-russes. Le chancelier Olaf Scholz a jugé très très préoccupante l'affaire d'espionnage, alors qu'un cadre du Parti social-démocrate estime que l'AFD plonge dans le chaos. Ce scandale s'ajoute à d'autres controverses impliquant l'extrême droite. Courant janvier, la révélation d'un projet destiné à expulser massivement les étrangers d'Allemagne a choqué le pays. L'AFD, crédité il y a quelques mois encore de 22% des intentions de vote, a dégringolé dans les sondages et plafonne désormais à 16%, son plus bas niveau depuis un an.
Sébastien Baer, correspondant en Allemagne. Le réseau social chinois TikTok annonce qu'il suspend volontairement la fonction de sa nouvelle application TikTok Lite, une application qui récompense les utilisateurs pour le temps passé devant les écrans. Nos enfants ne sont pas des cobayes pour les réseaux sociaux, a aussitôt réagi le commissaire européen au numérique Thierry Breton. Thierry Breton qui avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête à Bruxelles. Le temps demain, un ciel pluvieux au sud-ouest, nuageux au nord. Les régions méditerranéennes resteront sous le soleil. Les températures sont toujours fraîches, entre moins 2 et 7 degrés pour les minimales en général, de 9 à 20 degrés pour les maximales du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun, à la technique Alexandre Dang.